Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir qui rédigeait depuis 1795 les éphémérides? Eh bien, il s'agit du Bureau des Longitudes, un organisme créé par le décret du Messidor de l'an 3, à savoir le 25 juin 1795, afin de résoudre les problèmes astronomiques que pose la détermination de la longitude à la mer, d'où son nom. Et pour nous en parler, Jean-Paul Poirier vient de nous rejoindre en studio. Jean-Paul Poirier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes membre de l'Académie des sciences, dans la section des sciences de l'univers. Votre spécialité à vous, c'est la géophysique, et vous vous intéressez plus particulièrement au noyau terrestre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes venu faire un éclairage il y a quelques temps ici à Canal Académie sur le noyau terrestre, sur ce sujet donc. Et puis, vous êtes également membre du Bureau des Longitudes, donc vous allez pouvoir nous en parler plus en détail. Commençons par un peu d'histoire, si vous le voulez bien. Alors, tout commence, comme je viens de le lire au début, le 25 juin 1795. Nous sommes donc au lendemain de la Révolution et en pleine période de conquête de nouveaux territoires. Et c'est, je crois, l'abbé Grégoire, qui est assez connu, qui va procéder à la création de ce Bureau des Longitudes.
Oui, tout à fait. C'est donc l'abbé Grégoire qui a proposé à la Convention nationale, car c'était encore elle, de créer un bureau des longitudes, essentiellement, c'est un point de détail amusant, pour reprendre la maîtrise de la mer aux Anglais. Bon, en fait, le problème de navigation était terrible. On se pose souvent la question de savoir pourquoi il y a un bureau des longitudes et pas un bureau des latitudes. C'est parce que la détermination de la latitude est extrêmement facile. Il suffit de mesurer la hauteur du soleil à midi, local. Par contre, la détermination de la longitude était le grand problème scientifique et économique jusqu'au XVIIIe siècle et finalement jusqu'au XIXe siècle. Et donc, l'idée, c'était d'avoir des bonnes tables et des bonnes éphémérides, des bonnes tables en particulier de la Lune, mais également de tous les astres, du Soleil, pour pouvoir savoir, quand on voyait une position de la Lune par rapport aux étoiles quelque part en mer, de noter l'heure locale, et on savait sur les tables la même position, quelle heure il était à Paris, Paris ou au méridien origine. Et donc on pouvait faire la différence et comme ça connaître la longitude avec une approximation qui n'était pas toujours excellente, mais qui devait être de meilleur en meilleur au fur et à mesure que les tables s'amélioraient. Donc il fallait pour ça construire ces tables, et le Bureau des Longitudes avait sous sa coupe l'Observatoire de Paris, avec l'idée que une des fonctions essentielles de l'Observatoire, ça serait effectivement de faire ces tables qui serviraient à la navigation.
Donc le Bureau des Longitudes avait quand même une aura assez importante, puisque sous sa coupe, donc, comme vous venez de le dire, l'Observatoire de Paris, également l'Observatoire de l'École Militaire, je crois.
Ah bah, oui, bien sûr, les tours, enfin, c'était un petit observatoire, ça, oui, qui n'était pas...
Et puis les instruments d'astronomie qui appartenaient à la nation.
Tout à fait.
Et des instruments que le Bureau des Longitudes aussi a participé à créer.
Un peu, bien sûr, oui.
Donc un rôle très important. Alors, les 10 membres fondateurs sont aussi des personnages historiques.
Absolument. Bon, il y avait le premier président, ça a été Laplace, qui n'a pas besoin de présenter tellement il est connu. Laplace, mais il y avait des grands mathématiciens comme Lagrange, des astronomes comme Lalande. Il y avait les deux personnes que tout le monde en France connaît en les associant au système métrique à juste titre, qui étaient Delambre et Méchain, des astronomes. Il y avait le chevalier Borda, qui a construit, qui a inventé un instrument, c'était le cercle répétiteur de Borda, qui a permis justement de faire des mesures infiniment meilleures que ce qu'on faisait, et qui a contribué énormément à l'établissement du système métrique, justement, par ces mesures au cercle répétiteur de Borda. Il y avait un navigateur, Bougainville, bien connu. Il y avait également un géographe, qui est moins connu, c'est Buache. Et puis, un membre artiste.
Alors, artiste, alors, ça voilà, voulait dire c'était un... avant d'enregistrer l'émission.
Un artisan, c'était un fabricant d'instruments scientifiques. Et c'était donc effectivement important d'instruments d'observation, de cercles, de théodolites, etc., qui servaient aux observations astronomiques. Et donc, ce membre artiste s'appelait Carochet.
Quels sont les instruments finalement qui ont pu être créés par le biais du Bureau des Longitudes? Est-ce qu'on a des objets comme ça qui sortent, qui ressortent un peu plus.
Je ne pense pas qu'il y ait eu des instruments qui aient été créés par le Bureau des Longitudes. On utilisait des instruments classiques d'observation astronomique. La seule invention importante, ça a été celle de Borda, du cercle répétiteur. Mais il l'avait fait avant que le Bureau des Longitudes existe.
Et alors, le Bureau des Longitudes, c'est aussi de l'organisation de navigation, l'organisation de voyages, l'occasion de partir.
Pendant longtemps, effectivement, vu son importance, quand il y avait des expéditions lointaines, le Bureau des Longitudes s'y intéressait beaucoup. Il y a beaucoup de membres, par exemple, d'hydrographes étaient membres du Bureau des Longitudes. Je citerai uniquement l'expédition Baudin dans les années 1850, qui a été vers les terres australes et dont les Australiens se souviennent encore, peut-être plus que nous.
Là, nous étions dans la partie historique. Vous êtes membre, Jean-Paul Poirier, donc du ce Bureau des Longitudes. Vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes quand même peu nombreux par rapport aux membres de l'Académie des sciences, qui sont, vous êtes près de 250.
Oui, bon, l'Académie des sciences a beaucoup de disciplines différentes, depuis la médecine jusqu'aux mathématiques, et à la mécanique, etc., et les sciences de l'univers. Donc c'est plutôt à la section des sciences de l'univers qu'il faudrait comparer. Mais nous sommes effectivement plus petits au Bureau des Longitudes, puisqu'il y a 13 membres. Il y a 13 membres qui sont élus, qui sont cooptés, dont 3 sont au titre de l'Académie des sciences. Il y a 2 membres, enfin 2 ou 3 ou davantage membres en service extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des fonctions importantes, par exemple le directeur du service hydrographique et océanologique, le FOM, ou bien le directeur de l'Institut géographique national, qui pendant le temps de leur mandat sont membres du bureau, viennent assister aux réunions, etc., mais qui n'ont pas le droit de vote. Et puis, il y a 32 correspondants qui sont des
scientifiques étrangers.
Et qui peuvent être étrangers, absolument, tout à fait.
Et alors, donc, tous ensemble, vous avez encore une activité, puisque finalement, les activités de 1795, depuis, ont évolué, les connaissances ont évolué. Alors aujourd'hui, quelles sont vos missions, quelles sont vos fonctions?
Eh bien, il y en a, je dirais, 3 ou 4. Bon, d'abord, la fonction essentielle des éphémérides a été pendant longtemps assurée par le service des calculs du Bureau des Longitudes, qui a maintenant un petit peu pris son indépendance et est devenu l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, et qui est un institut de l'Observatoire de Paris. Néanmoins, le Bureau des Longitudes garde le contrôle, la responsabilité scientifique des éphémérides, ce qui était dans sa mission. Il ne les confectionne plus lui-même, mais il en garde le contrôle. Alors, il existe une commission des éphémérides qui comprend des membres du bureau et des membres de l'IMCCE et qui décide un petit peu ce qui va se faire de modifications, d'arrangements, de choses sur les éphémérides. Bon, alors ça, c'est la partie éphéméride. Un deuxième point, c'était un problème qui était dans les missions du bureau à l'origine aussi, sous une forme peut-être un peu différente, des connaissances dans le domaine,
hein.
Dans le domaine astronomique ou physique de la Terre. Pendant pratiquement toute sa carrière, Arago, qui était directeur des observations à l'observatoire, il n'y avait pas de directeur de l'observatoire parce qu'à ce moment-là, il dépendait du Bureau des Longitudes,
bien sûr,
mais
oui.
Qui était Arago, qui était le patron de l'observatoire, eh bien, était membre du Bureau des Longitudes, bien entendu. Pendant très longtemps, c'est lui qui a assuré un cours d'astronomie populaire qui a donné lieu à cet excellent livre qui s'appelle « L'astronomie populaire d'Arago », dont c'est qu'admirait beaucoup Flammarion d'ailleurs, et qu'il a repris le même titre exprès. Et ce livre est tout à fait magnifique. Et il a donné ce cours pendant jusqu'à sa mort, pratiquement, dans un amphithéâtre qu'il avait fait construire à l'observatoire. Et son successeur, dès qu'il est mort en 1853, son successeur qui était Le Verrier, n'a eu rien de plus pressé que de détruire ce magnifique amphithéâtre. Bon.
L'idée, c'était de donner l'occasion à la population de pouvoir acquérir ses connaissances.
Alors des gens qui ils démarraient très très bas avec des cours de géométrie, de choses comme ça. Enfin, c'est tout à fait remarquable. Alors cette mission-là, bon, on ne donne plus de cours publics. Il y avait des notices d'intérêt très général dans l'annuaire du Bureau des Longitudes qui ont disparu pour laisser place à une encyclopédie de l'univers. Et puis à des cahiers du Bureau des Longitudes qui étaient des petites monographies sur des sujets différents. Et puis donc maintenant essentiellement ce ne sont plus des cours publics qui sont donnés, mais tous les premiers mercredis du mois, après l'après-midi de la réunion du bureau qui se tient le matin. Il y a une conférence publique qui n'est même pas sur invitation. Il y a des affiches qui sont envoyées un petit peu partout, peut-être pas suffisamment. Et tous les gens qui sont intéressés sur des sujets d'actualité qui ressortissent un petit peu aux activités du bureau, eh bien, sont les bienvenus. Ça se passe à l'Institut, dans la salle Hugo. Et je citerai quelques exemples. Au moment, par exemple, de l'éclipse de soleil totale, eh bien, il y a eu un après-midi...
sur ce thème.
Tous les mois. Bon. Et par contre, il y a également, une fois par an, au mois de juin, une journée scientifique où là, c'est sur un sujet d'actualité qui est également grand public, sur un sujet d'actualité. Alors, donc, comme il y avait eu les éclipses, il y avait eu des, au moment du passage de Vénus devant le Soleil, au moment du 150e de la mort d'Arago. Et puis, l'année dernière, enfin, c'est même cette année, en juin 2006, il y a eu une journée avec 4 ou 5 orateurs sur l'observation de la Terre et les catastrophes naturelles, où on a parlé effectivement de choses comme les tsunamis ou d'autres catastrophes naturelles.
Alors, comme vous le précisiez, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés, ça se passe à l'Institut de France,
dans une salle à l'Institut. Dans le fond, dans la deuxième cour de l'Institut, qui est la salle Hugo, et qui est et donc les gens arrivent à 14h. Ils ont été prévenus de la date avec des affiches ou en regardant le site du Bureau des Longitudes, le site internet. Et ils sont les bienvenus. En général, ça se termine par un cocktail amical qui permet aux gens de discuter avec les orateurs, avec les membres du bureau, et tous les assistants sont invités.
Alors, vous me précisiez juste avant de commencer cet enregistrement une particularité lors des rencontres mensuelles, pas de la journée scientifique annuelle, que tous les mois ça commençait à 10h pile, pas à 10h moins 1 ou 10h 1, à 10h pile. Est-ce
Absolument.
Que c'est fait partie de cette rigueur scientifique spécifique au Bureau des Longitudes?
Ça c'est une tradition qui est respectée. C'est peut-être un des rares réunions en France qui commence exactement à l'heure, c'est-à-dire effectivement c'est 10h.
Et alors, une autre fonction, une autre mission peut-être du Bureau des Longitudes, c'est la rédaction de rapports, et notamment vous me parliez de Galiléo. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Voilà. Alors, le programme Galiléo est un programme évidemment qui doit faire, c'est le GPS européen, et qui est évidemment en plein dans les intérêts du Bureau des Longitudes. Et le Bureau des Longitudes s'est un peu saisi de ce problème en disant, voilà, nous allons faire un gros rapport sur les intérêts, pour un petit peu pousser à la roue et sensibiliser l'opinion publique et surtout l'opinion des décideurs pour montrer tout l'intérêt de ce programme.
Alors, une petite précision peut-être, c'est que c'est un rapport qui n'a pas été commandé par le gouvernement, c'est un rapport de votre propre initiative.
Dont nous nous sommes saisis, de propre initiative. Alors, c'est le Bureau des Longitudes qui en a pris l'initiative et qui a contacté l'Académie de Marine, qui était évidemment intéressée, l'Académie nationale de l'air et de l'espace, et les trois ensemble, on a mis des gens ensemble qui se sont réunis assez loin, qui ont beaucoup travaillé, et qui ont sorti un petit livre, Galiléo, qui explique un petit peu tout l'intérêt de ce programme, qui a été envoyé effectivement à tous les décideurs de tous horizons. Et ce livre, même dans le grand public, a eu du succès. Il a été traduit en anglais, et il a été traduit en polonais. Et une deuxième édition augmentée, revue, corrigée, etc., est en préparation.
Mais alors, vous émettez des conseils Qu'est-ce qu'on y retrouve dans cet ouvrage, dans ce rapport?
On y retrouve d'abord tous les intérêts, à quoi ça peut servir, pour que les gens comprennent bien. Et puis, effectivement, il y a des recommandations.
De quel type, par exemple? Ah oui, vous ne voudrez pas entrer dans le détail. Il faudra l'acheter.
Voilà.
Aujourd'hui, c'est bientôt la rentrée, donc également la rentrée pour le Bureau des Longitudes. Donc, on peut vous retrouver dans combien de temps?
Eh bien,
donc, le premier mercredi d'octobre. Vous connaissez déjà le sujet qui sera évoqué?
Je le connais, mais pour être tout à fait honnête, je l'ai oublié. Donc, il y a une affiche qui doit être diffusée.
Alors, pour terminer cette émission, Jean-Paul Poirier, donc je reprécise que vous êtes membre de l'Académie des sciences et du Bureau des longitudes, quels seraient les rapports à venir ou quels seraient les grands projets à venir pour le Bureau des longitudes ?
Mais il y a quelque chose qui est en route pour l'instant, qui est une étude sur les problèmes d'observatoires, qui sont des problèmes effectivement importants, les observatoires non seulement astronomiques, mais géophysiques ou d'autres, et de savoir un petit peu comment ça doit évoluer, quels sont les problèmes qui se posent et quelles sont les solutions qu'on pourrait y apporter. Là, les membres du bureau travaillent sur ce sujet en ce moment et il va sortir probablement un petit rapport là-dessus.
Le bureau des longitudes a encore de beaux jours devant lui, puisque les fonctions ont beaucoup évolué entre 1795 et actuellement. Donc vous continuerez encore pendant quelques années vos recherches et vos travaux au sein du Bureau des longitudes.
On peut l'espérer.
On peut l'espérer. Eh bien, merci Jean-Paul Poirier de nous avoir accordé un quart d'heure sur ce Bureau des longitudes, un bureau donc, qui se trouve au sein même de l'Institut.
Oui, il est hébergé dans le palais de l'Institut.
Et donc des grands noms qui ont marqué le Bureau des longitudes, tels qu'Arago, Jean-Baptiste Biot, Lagrange, Laplace, Bougainville, comme vous nous le disiez au départ, des grands noms.
Beautemps-Beaupré, le père de l'hydrographie, etc.
Et alors aujourd'hui, quels sont les grands noms à part le vôtre ?
Eh bien, il y a des astronomes. Il y a M. Denis, qui était un des premiers présidents du CNES, du Centre National d'Études Spatiales, qui a été une personnalité importante de l'astronomie française, qui a démarré la radioastronomie. Il y a M. Fehrenbach, qui a été directeur d'observatoires, de grands observatoires, en particulier de Saint-Michel-de-Provence. Et il y a, je ne veux pas citer tous les noms parce que je ferai des jaloux, mais il y a des géophysiciens, Jean-Louis Lemuel, qui est un géomagnéticien. Il y a des gens qui s'intéressent à l'océanographie, aux glaces, etc.
Est-ce qu'on a encore un artisan parmi vos membres ?
Je crois qu'il y a encore quelqu'un qui est catalogué comme artisan, mais je ne sais pas lequel.
Eh bien, merci Jean-Paul Poirier de nous avoir accordé, donc, je le disais, ce quart d'heure. Et puis à bientôt pour une prochaine émission. Donc, merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.